Voilà, oui, c'est mieux. Gloire à Dieu. Quelle joie dans nos cœurs, n'est-ce pas? C'est vrai que vendredi, nous avons une soirée extraordinaire. Et il y a encore cette joie qui est sur nos cœurs, je crois, aujourd'hui. Peut-être encore plus particulière chez ceux qui se sont engagés, nos frères et nos sœurs. Ce message que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin, en fait, fait suite à une prière personnelle. Ça résonne fort. Tu peux peut-être baisser les retours. Il y a quelque temps, voilà, dans ma communion personnelle avec l'Éternel, je disais ceci: Seigneur, je ressens ce besoin que tu te révèles un peu plus dans ta grandeur. J'ai besoin d'être ébloui par ta grandeur, renouvelé dans ma marche avec toi. Vous savez, il y a tellement de choses qui brillent dans ce monde, tellement de choses qui peuvent nous attirer, que l'on voit sans les chercher, même tout autour de nous. Le monde a tellement besoin de la grâce de Dieu. Et il y a tellement de virtuels, tellement de choses factices. Et on a besoin de la grandeur de Dieu dans nos vies. Et je voudrais partager ça avec vous ce matin. Alors on va aller dans le psaume 147. On va le lire en entier. Même si on ne va prendre que certaines choses. Et j'ai trouvé que ce psaume, il était un peu particulier. Je vais vous dire pourquoi je suis allé dans ce psaume du... Il y avait une raison. Mais je me posais la question, je me disais, mais il me semble qu'il est un peu décousu, ce psaume. Vous allez voir, ça passe d'un sujet à l'autre, sans lien véritable. Et je me suis dit, c'est peut-être simplement le reflet de l'existence que nous vivons, où tout s'entremêle. On n'est pas comme... dans des tiroirs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce matin, on a ouvert le tiroir de l'église et puis on est là à l'église. Et puis ce soir, on rentre chez nous, on referme le tiroir et demain, on ouvre le tiroir pour aller au travail ou à la fac. Il y a tout qui se mêle dans notre vie. Tout s'entremêle. Nos états d'âme, nos émotions, nos soucis, nos problèmes, nos joies, la vie avec le Seigneur, mais aussi les difficultés que l'on rencontre. Tout s'entremêle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette révélation de Dieu dans nos vies, au jour le jour. Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Nous l'avons chanté. Laissons entrer le roi de gloire. Il est Seigneur, il est glorieux. Et nous avons aussi chanté, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Et ce matin, j'aimerais, avec vous, pendant ces quelques instants, que nous puissions nous élever un petit peu, nous élever dans le ciel. Je crois que chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en communion avec lui. Mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et quel est le verset pour lequel particulièrement je suis allé dans ce psaume? C'est le verset 4. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Ce matin, on va faire un petit tour dans le ciel. Mais vous savez, l'Éternel, il est au-dessus de cela encore. Il est au-dessus des galaxies et des étoiles que l'on peut voir. Abraham, il avait déjà dit au commencement, lors de la promesse qu'il lui a faite, il lui avait dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. On sait pourquoi Dieu avait mis ceci, parce que même aujourd'hui, on ne peut pas compter toutes les étoiles. J'aimerais, avant de continuer, faire une deuxième lecture. Il y a beaucoup de passages qui parlent de cela dans les Écritures. On est dans Ésaïe au chapitre 40, et voilà, le verset 25, c'est bien, merci. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Est-ce que vous aviez déjà une idée de ce qui est écrit ici? On n'est pas dans la légende, on est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu compte les étoiles et qu'il leur donne à toutes un nom. Alors, pendant la première partie de ce message, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je vais reprendre une partie, une étude qui a été faite ici dans cette église, il y a un peu plus de 37 ans, de 35 ans, un peu plus, par le pasteur qui était là en titre dans cette assemblée. Et je vais m'appuyer sur cette étude. J'ai recherché activement les notes et j'ai eu du mal. Je me disais, tu ne vas pas les trouver. Mais je savais que je les trouverais parce que le Saint-Esprit avait mis ça sur mon cœur. C'est pas moi qui ai envie de faire cela. Alors, vous comprendrez qu'à certains moments, je vais lire. Hein ? On va parler donc d'astronomie, du ciel, et de ce nom que Dieu a donné aux étoiles. Alors, par avance, je suis frustré, parce que je ne vais faire qu'effleurer le sujet. C'est énorme. Et ce matin, on va l'effleurer, tout juste. Mais je crois qu'on a besoin de voir que Dieu est grand, de plus en plus, dans notre vie. Alors, au cours des siècles, les astronomes se sont détournés vers l'astrologie. Mais depuis longtemps, on peut dire que les deux sont vraiment dissociés aujourd'hui. Et je tiens à préciser cela, on ne va pas faire d'astrologie ce matin. Et je vous invite vraiment, quand vous rentrez chez vous, à ne pas aller consulter les signes du zodiaque. Surtout pas, je vous recommande même vivement de ne pas le faire. Parce que notre destinée, elle n'est pas là-dedans, mais elle est entre les mains de Dieu. Alléluia. Alors qu'on ne fasse pas de confusion surtout. Hein. Donc, sur une planisphère, on va afficher une planisphère. Les noms des étoiles sont en diverses langues. Voilà, ça c'est une planisphère qui a été faite dans un temps, il y a déjà longtemps, où on pensait que la Terre était fixe et qu'en fait, tout le système solaire tournait autour de la Terre. On peut même zoomer un petit peu. On peut l'agrandir, en principe. Oui ? Alors, on va voir si c'est faisable. Hein. Donc, les noms des étoiles, ils sont en diverses langues, et on ne va pas les trouver en français, bien sûr. On va les trouver dans des langues anciennes, le chaldéen, le syriaque, le copte, l'arabe, voilà. Et donc, sur cette carte-là, en fait, on voit deux ronds parce que je pense que ça a été dessiné d'un pôle et puis de l'autre. Voyez ? Et en fait, on a découpé, c'est une carte du ciel, on l'a découpé en 12 portions, et c'est ce qu'on appelle les 12 signes du zodiaque. Et dans chaque signe, je pense que vous voyez les portions ici, dans chaque signe, il y a 3 portions qu'on appelle des décans. 3 décans. Voilà. C'est une carte du ciel, en fait, des constellations. Les signes du zodiaque, ça veut tout simplement dire, en hébreu, le mot zodiaque, c'est un chemin à étapes. C'est-à-dire, on part du début, et puis, petit à petit, on avance. Et cette carte, ces signes du zodiaque, donc, c'est une zone qui est définie par les savants, une zone du système solaire qui fonce, vous voyez, on ne se rend pas compte là, mais on fonce, à 72 000 km/h vers l'étoile Vega. Et l'étoile Vega signifie, c'est son nom, c'est le nom que Dieu lui a donné, il sera adoré ou exalté. Ce sera d'ailleurs la prochaine étoile polaire, parce que j'ai passé beaucoup de temps, que l'étoile polaire, elle change. Mais ça, c'est technique. Et je pense d'ailleurs que la prochaine étoile polaire, donc Vega, ça m'étonnerait que qui que ce soit ici, nous verrons cela. Ça ne sera pas possible. Alors pourquoi ce mot signe ? Ce mot signe, signe du zodiaque. Le mot original veut dire que c'est un signe surnaturel, c'est un événement surnaturel. Et on va afficher donc ce que Dieu a dit dans la Genèse, au commencement, au chapitre 1er et au verset 14. Voilà, Dieu a créé les astres, les luminaires, et il a dit ceci, qu'ils servent de luminaires donc dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. J'attends la suite. Non, on l'a pas. Alors je vais la chercher. J'ai peut-être pas bien donné les versets. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Oui, je pense qu'on n'a pas commencé au bon moment, c'est pour ça que je ne trouvais pas le mot. Au verset 14, c'est peut-être moi qui me suis trompé, désolé. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc ce mot « signe » qui est employé ici dans la Genèse, c'est un mot qui veut dire, qui annonce, qui indique quelque chose de particulier. Donc Dieu a placé les astres et les étoiles dans le ciel pour annoncer, pour indiquer quelque chose de particulier. Et le même mot est employé un peu plus tard, quand Dieu s'adresse à Noé, après le déluge, une fois que les eaux sont redescendues et que Noé sort de l'arche, Dieu va lui dire, et c'est exactement le même mot qu'on trouve, « J'ai placé mon arc dans la nue, l'arc-en-ciel, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Voilà ce que dit Dieu. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est qu'à l'origine, l'Écriture n'existe pas. Et Dieu se révèle dans le nom des étoiles, où nul ne peut toucher. Personne ne pourra aller gribouiller, effacer. C'est facile aujourd'hui sur l'ordinateur, on fait une mauvaise manip. Aïe, aïe, aïe. J'ai effacé mon fichier. Voilà. Là, c'est pas possible. Et en plus, la longévité de la vie n'a rien à voir avec aujourd'hui. Je crois que si vous connaissez la Bible, vous savez que pendant longtemps, les hommes ont vécu fort longtemps. J'ai noté par exemple que Noé a vécu 950 ans. Celui qui tient la palme dans la parole de Dieu, c'est Methuselah, 969 ans. Je me sens un peu comme un adolescent là ce matin, vous voyez ? Et même un gamin peut-être. Et Abraham, à qui Dieu a parlé, et comme on l'a vu tout à l'heure, là, le temps passant, les années vont diminuer, c'est la volonté de Dieu, on le trouve dans la parole, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Abraham a vécu 175 ans. Donc il y a une longévité, il n'y a pas d'écriture. Et on ne sait pas comment, mais Dieu a communiqué cela. Et cette connaissance, elle va se perdurer. Elle ne va pas s'effacer parce que les hommes vivent très longtemps. Et vous allez voir qu'on trouve des références dans la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Alors il existe une telle logique dans les noms des signes du zodiaque qu'il est impossible à un homme d'être à l'origine de cela. Et ça, c'est une reconnaissance des savants et des astronomes. Donc les savants, les astronomes tels que, je vais en citer un, Ptolémée, qui a vécu au deuxième siècle après Jésus-Christ. Il était mathématicien, géographe et astrologue. Il s'était détourné vers l'astrologie aussi. C'était un grec. Tous ces gens-là reconnaissent une autorité indéniable et inconnue à ces noms. Nous, on peut comprendre pourquoi. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui a donné un nom aux étoiles. Et il est important de préciser que les noms des signes leur sont donnés en fonction des étoiles qui constituent la constellation, et pas le contraire. Donc les noms des étoiles, c'est eux qui vont donner le signe, le nom au signe, d'accord ? Voilà, par exemple, si on parle, ben je vais y venir. Le signe, je vais commencer par le signe de la Vierge. Je ne vais pas tous les faire parce que ça, je vous dis, on ne peut qu'effleurer. Donc je vais en prendre un petit peu quelques-uns. Dans le premier décan, donc là, il y a trois parties dans chaque signe. Le premier décan est intitulé le coma, et ça veut dire le désiré. Vous voyez, on est dans le signe de la Vierge. Dans le deuxième décan, on trouve la constellation du Centaure. En chaldéen et en arabe, ça veut dire le méprisé. Ou Knemu, dans une autre langue, qui veut dire celui qui doit mourir. Les étoiles, j'en ai pris une qui s'appelle Toliman. On l'appelle aussi, dans un langage plus récent, Alpha Centaure. Mais j'ai vu sur Internet que ce mot Toliman a été validé par les astronomes en 1900 et quelques. Donc vous voyez, tous les astronomes donc, connaissent les noms d'origine. Et cette étoile, Toliman, elle veut tout simplement dire « Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » La plus brillante de ce signe, elle signifie « Il vient ». Et les autres évoquent le berger, la moisson, le plus beau, etc. Maintenant, on va voir le signe de la balance. L'étoile la plus brillante signifie le prix défectueux. Et une autre, le prix suffisant. C'est extraordinaire. Rien ne saurait nous racheter, sinon le sang de l'agneau. Une autre étoile s'appelle le prix à payer dans le conflit. Quel conflit ? Le conflit entre la femme et le serpent. À l'origine, quand Dieu parle au serpent, il dit « Maintenant, il y aura inimitié entre toi et la femme. » Dans le premier décan, on trouve la constellation Crux, appelée la Croix du Sud. Elle a disparu au temps de la crucifixion de Jésus-Christ et est passée dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la voir de l'Europe. En hébreu, son nom signifie « retranché ». Exactement le même mot que l'on trouve dans la prophétie de Daniel. Dans le deuxième décan, on trouve la constellation du loup. C'est la victime. Je ne peux pas tout vous expliquer, c'est trop vaste. Et en hébreu, son nom signifie « celui qui doit être immolé ». Dans le troisième décan, et là, on va pouvoir l'afficher, il y a la constellation de la couronne. Christ couronné de gloire et d'honneur. Ça, c'est la signification. L'étoile Alpheka, la plus brillante de cette constellation, signifie, est appelée le lumineux. Et cette constellation a brillé particulièrement le jour de la crucifixion de Jésus. On n'est pas dans la légende, hein. Ce sont des phénomènes qui ont été constatés par des astronomes. Je voudrais passer dans le signe, maintenant, je passe très rapidement, là il n'y aura pas de carte, le signe du scorpion. L'étoile la plus brillante, Antarès, signifie en vieil arabe « celui qui blesse ». Une autre étoile de cette constellation signifie, est appelée le pervers. Et le nom du premier décan, c'est la constellation du serpent. Vous avez compris de qui il s'agit. On va passer rapidement. Le signe des poissons, en hébreu « ictus ». Le message de ce signe des poissons, c'est la multitude de ceux que Christ s'est acquis. L'Église. Il y a 113 étoiles dans ce signe. Elles sont toutes de même importance. Ça nous parle. Ça nous parle. Le premier décan, la constellation du lien, qui veut dire « celui qui vient pour unir ». Le deuxième, c'est la constellation d'Andromède. Et le nom des étoiles au féminin, l'affligé, brisé, délivré de l'enfer, le lien, celle qui est brisée. C'est l'image de l'Église qui soupire après la délivrance. Le troisième décan, c'est la constellation Céphée, qui veut dire « le rameau ». Et voilà le nom des étoiles, il vient rapidement, le Rédempteur, le Berger, celui qui revient, venir dans un cercle, écrasé sous les pieds. C'est le message du rameau qui revient, vous savez, selon la prophétie de l'Ancien Testament, qui écrase ses ennemis et qui prend son troupeau. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on voit qu'une petite partie. C'est extraordinaire ce que Dieu a écrit dans le ciel. Je voudrais prendre un dernier signe et je viendrai sur un autre. Le signe du cancer. C'est un nom latin mais qui est d'origine arabe. En copte, il signifie le troupeau dans le bercail. Et en hébreu, celui qui entoure. Le message de ce signe, c'est la postérité du Christ dans la sécurité. Voici le nom des étoiles, parce qu'en fait, dans le signe, on parle de certaines constellations, mais il peut y avoir des milliers d'étoiles. Hein, c'est une carte du ciel que l'on a mise à plat. C'est un peu compliqué quand même de mettre le ciel à plat. Mais vous savez, c'est pareil pour la Terre, hein. J'ai beaucoup travaillé dans ma carrière sur des cartes, sur de la cartographie, et on avait le même problème. De mettre à plat la surface de la Terre qui est ronde, ça pose des problèmes. À un moment donné, on fait des décalages, vous voyez. On est obligé de tricher, quelque part. Voilà, c'était une parenthèse. Le nom des étoiles de ce signe du cancer, l'abri où l'on se cache, les milliers assemblés, celui qui protège, les agneaux, la multitude, celui qui étreint. Alors là, on va afficher un schéma. J'ai préféré prendre ça, j'avais le choix. Il y avait des cartes du ciel, comme on a vu tout à l'heure. Mais là, c'est un schéma des deux constellations, de la petite ours et de la grande ours. Je pense que c'est peut-être les plus connus. Enfin, pour moi, en tout cas. Quand j'étais jeune, c'est ce que j'ai appris. Il y en a une qui ressemble à une poêle et l'autre plutôt à la casserole. voyez, hein, selon la branche. Voilà. Donc, la constellation de la petite ours, en fait, le mot original, c'est le petit troupeau. Et le nom des étoiles, alors, il y a une étoile ici que l'on voit, c'est marqué polaire. Actuellement, c'est l'étoile polaire de nos jours, qui s'appelle Kochab, et qui est appelée, en fait, ce nom signifie être en train d'attendre celui qui vient. Alléluia! Nous attendons celui qui vient. Gloire à Dieu. Et puis d'autres noms, la compagnie qui voyage, les assemblées, les veaux, le chevreau. Le chevreau parce que, voilà, je peux pas, je vous ai dit, je ne peux pas prendre tous les signes et toutes les étoiles, mais le chevreau, la chèvre, ça rappelle toujours le sacrifice de Christ. Et les veaux, n'oubliez pas que le vrai nom, l'original, c'est le petit troupeau. Et par exemple, dans la prophétie de Malachie, Dieu dit que le peuple sera dans la joie et qu'ils sauteront comme des veaux. Vous voyez ? Et dans ce deuxième décan, on trouve la constellation de la grande ours. En fait, le mot, c'est les assemblées. Alors, ce que je disais au début, vous allez voir que on le découvre ici, c'est que ces deux appellations proviennent d'une erreur d'écriture à un moment donné. Le mot a été tronqué de la dernière lettre. Et le nouveau mot, ainsi formé, a donné ours en égyptien. Il manque, on enlève juste cette lettre, et au lieu d'être troupeau, ça devient ours. Et on se rend compte que dans aucune de ces, dans ces deux constellations, aucune étoile ne parle d'ours. Aucune. Donc on voit bien que c'est une erreur d'écriture. Et voici le nom de quelques étoiles de la grande ours, ou donc le grand troupeau. Le nom des étoiles, le troupeau acheté, les dénombrés, la brebis, séparée. Je pense que, je l'ai dit un peu lentement, mais beaucoup de choses nous font penser à ce que nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas ? L'agneau, les filles de l'assemblée, ceux qui sont protégés ou couverts, un groupe de voyageurs. Eh oui, on est étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, je vais terminer avec cette première partie, parce que ce n'est pas le but de passer notre temps là-dessus. Mais en fait, on voit que Dieu a écrit le message de la vie éternelle. Sa préscience a fait que, parmi toutes ces constellations, il a donné un message extraordinaire dans le ciel que personne ne peut effacer. Alors, peut-être on peut penser ce matin, c'est bien, c'est extraordinaire, c'est je découvre, je ne savais pas, mais moi. En fait, j'ai intitulé ce message « Le Dieu des étoiles » et, point de suspension, moi. Moi qui suis aujourd'hui sur la terre, moi qui suis enfant de Dieu. Alors, avant de revenir dans le livre d'Ésaïe, je voudrais vous conduire dans l'évangile de Luc. Voilà, allez voir ce que nous allons trouver ici. Dans l'évangile de Luc, à ce passage précis, le Seigneur Jésus est en train de faire l'éloge de Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui est venu avant Jésus, n'est-ce pas ? Et Jésus va dire ceci, où c'est qu'on commence ? Voilà. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. On va s'arrêter là. Le Seigneur donc est en train de parler de Jean. Et il va dire quelque chose qui à première vue peut paraître étonnant. Il va dire que parmi ceux qui sont nés de femmes, c'est-à-dire, à part lui, Jésus, il est né d'une femme, mais c'est différent, on le sait, hein. À part lui, eh bien, Jean-Baptiste est le plus grand dans le royaume de Dieu. Et alors qu'il va continuer à faire l'éloge de Jean-Baptiste, il va faire une parenthèse. Et cette parenthèse, c'est celle qu'on a en bas. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, qu'on puisse vraiment réaliser ça, qui que l'on soit, c'est que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons une place dans les cieux extraordinaire, une place dans le cœur de Dieu. Une place dans le cœur de Dieu. Rien de comparable avec ce qui se passe dans notre monde, avec, par exemple, ce qui se passe dans les hautes écoles de notre société. Je pense à quelqu'un de notre connaissance, dont le fils, qui était brillant, avait intégré les hautes écoles de politique. Il n'a pas pu y rester. Il n'a pas pu y rester parce que si vous ne faites pas partie de la haute, on vous le fait bien comprendre et on vous fait bien souffrir. Eh bien, dans le royaume de Dieu, c'est complètement différent. Et ce matin, peut-être que quelqu'un dit dans cette assemblée, sur cette terre, moi, qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je suis ? Et moi, vous savez, moi qui vous parle ce matin, après avoir partagé avec vous, avoir partagé ça avec vous ce matin pendant quelques minutes, et puis après l'avoir médité depuis plusieurs jours, je me dis, mais qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je suis ? Parce que Ésaïe dit ceci dans ce chapitre 40. Je vous invite à le lire, le chapitre 40. Pas maintenant, hein, mais c'est un chapitre extraordinaire qui nous parle de la grandeur de Dieu. Et au verset 6 et 7, voilà ce qu'il dit. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Et au verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Que sommes-nous face à l'étendue des cieux et de ce que Dieu a créé ? Que sommes-nous ? Nous sommes vanité. Nous sommes comparés à la vanité d'une fleur et aux sauterelles, et pourtant nous sommes enfants de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, eh bien le plus petit, celui qui croit qu'il n'est rien, il est plus grand que Jean, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est une autre façon de compter, c'est une autre façon de voir les choses dans le royaume de Dieu. Nous bénéficions par sa grâce d'une compréhension, d'une considération incompréhensible. Et c'est pourquoi dans ce chapitre d'Ésaïe, lorsqu'on a lu tout à l'heure, je me suis arrêté, mais on va lire la suite, lorsque le Seigneur parle des étoiles, qu'il les fait marcher en ordre, il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Et voilà ce que dit Dieu. Pourquoi dis-tu, Jacob ? Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Alléluia ! Pourquoi croyez-vous que ces paroles sont là, à cet endroit ? Dieu est capable de nous éblouir par sa grandeur, par sa science, qui nous dépasse complètement. Aujourd'hui, cette semaine encore, avec ma femme, on regardait un petit reportage sur la nature, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui encore, on ne fait que découvrir des merveilles de la nature. Il y a tout à découvrir encore, tellement Dieu est grand. Alors, si tu es enfant de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, pourquoi dis-tu, Jacob, ma destinée est cachée ? Pourquoi dis-tu, mon droit passe inaperçu ? Est-ce que tu crois que Dieu ne connaît pas tes besoins ? Est-ce que Dieu ne connaît pas ton droit ? Est-ce que Dieu ne connaît pas ta souffrance? Peut-être cette maladie qui te ronge, qui te fait mal, qui dure? Est-ce que Dieu ne connaît pas tes soucis? Vous savez, des fois, on a des soucis. Moi parfois, je me dis, « Ah, Seigneur, ça me pose des soucis, et pourtant, ce n'est pas grand-chose. » Mais ça fait partie de notre vie. Mais le Dieu des étoiles, le Dieu qui a écrit le message de la vie éternelle dans les étoiles, est-ce qu'il ne connaît pas notre problème? Est-ce qu'il ne sait pas ce que nous vivons peut-être aujourd'hui? Ce qui est notre difficulté? Ça peut être tellement et tellement de choses. Le Dieu qui est au-dessus de tout, il veille sur ses enfants. Il veille sur nous. En particulier, je le crois. Gloire à Dieu. Alors il y a quelque chose d'important qu'on a lu dans le psaume tout à l'heure, dans le psaume 147. Je pense que vous l'avez remarqué. Moi, quand j'ai lu ce verset, j'ai ri. Oui, je me suis mis à rire. Pas aux éclats, hein. Mais je me suis dit, ça Seigneur, c'est pour moi que c'est écrit ça. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Là, j'ai rigolé. J'ai dit, Seigneur, parce que voilà, je pense que vous le savez pour beaucoup, j'aime encore faire du sport et le sport que je fais, ben, c'est les jambes. C'est pas trop la tête, ni les bras. Et je me suis dit, mais ça c'est pour moi que tu écris ça ou quoi? Et en fait, quand on voit dans une autre version, on comprend parce qu'il est question de la vigueur du cheval et puis de l'agilité de l'homme. Mais vous savez, dans le temps, quand il y avait des nouvelles à apporter, il y avait des coureurs, des marathoniens, des gens qui avaient un parchemin, un message. Et ils couraient des kilomètres et des kilomètres. Aujourd'hui, on fait un texto là, comme ça, plam, à l'instant, à la seconde près, il est arrivé. Mais à l'époque, c'était autrement. Et ce qui est écrit ici, c'est important. Ce n'est pas dans ce que l'on est, dans ce que l'on peut faire, dans même que l'on soit brillant dans quelques domaines que ce soit, parce que on peut faire plein de choses. On est différents les uns des autres. On peut être doué. Bon, là, c'est pas mon cas, et maintenant, c'est derrière moi. Mais on peut être doué dans le sport, mais on peut être doué dans l'art, dans les études, dans le travail, dans la cuisine, dans tout un tas de choses. Mais tout ce que l'on peut faire, la parole de Dieu nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu as tout reçu du Seigneur. Vous savez, il y a quelques années, je cherchais un instrument de musique. Et je l'ai trouvé sur Internet et je suis allé l'acheter dans le Lot. Et ce gars, il avait de nombreux instruments qu'il avait mis en vente. Et en fait, les marques les plus prestigieuses, eh bien, elles étaient déjà parties, forcément. Mais celui qui restait, c'était déjà un bel instrument et j'ai pu l'acheter. Et j'étais vraiment content. Et je lui ai posé la question. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous débarrassez de tous vos instruments comme ça? Et il m'a dit, je ne peux plus jouer. J'ai des problèmes à mes mains. Je ne peux plus jouer. Et autant j'étais heureux d'acheter cet instrument. Je l'ai essayé, mais bon, déjà, il devait jouer certainement beaucoup mieux que moi, c'est certain. D'avoir autant d'instruments de qualité à ces prix-là. Mais j'avais de la peine pour lui. Et vous savez, quoi que l'on fasse, tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Même la santé nous vient de Dieu. Et nous voulons lui rendre gloire pour cela. Et ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui nous la donne, c'est lui qui nous l'accorde. Mais ce n'est pas dans cela que Dieu prend son plaisir. Nous l'avons lu. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Ce qui espère en sa bonté. Et ce matin, je voudrais te dire, ne dis plus pourquoi. Pourquoi? Est-ce que tu ne vois pas ma souffrance? Est-ce que tu ne vois pas? Non. Mais espère en sa bonté. Espère en sa bonté. Alléluia, le Dieu. Oh, je reviens là-dessus parce que moi, je suis émerveillé. Vous savez ce que j'ai fait? La semaine dernière, je ne dormais pas. Je ne dormais pas le matin, j'étais réveillé de bonne heure, trop tôt. Et puis ce message, il était là, il tournait. Alors je me suis habillé, il faisait nuit. Il faisait nuit, c'était de bonne heure. Je suis allé dehors. J'ai pris la chaise longue et je me suis couché. Et je regardais les étoiles. Et je parlais à l'Éternel. Et je le laissais me parler. Le Dieu créateur recherche une relation profonde, une amitié profonde avec ses enfants rachetés. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire de savoir que ce Dieu qui est si grand, qui nous dépasse, nous qui sommes comme des sauterelles à ses yeux, il a mis en nous son Esprit Saint et nous pouvons être en relation avec lui. Moi, je trouve ça... J'ai pas de mots. Alors toutefois, je voudrais dire ce matin, attention à cette dérive parmi tant d'autres. Parce qu'on est dans un temps où il y en a des dérives, je crois, qui consistent à penser que nous sommes au centre, même que nous soyons l'objet de la sollicitude de Dieu, nous ne sommes pas au centre. Si nous sommes l'objet de cette si grande sollicitude du Dieu créateur, c'est que tout a été rendu possible en et par Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on affiche, s'il vous plaît, merci beaucoup à la technique, ce passage de Colossiens, je vous l'ai donné, je pense. Oui, voilà. Il est question ici du Seigneur Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Le Père, Dieu le Père, l'a élevé au-dessus de tout. Alléluia, Jésus-Christ est au centre. Alors, on va terminer par une dernière constellation. Peut-être ne le savez-vous pas, mais tout à l'heure, donc, j'ai cité le savant... et astronome Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais là, on va citer le prophète Amos. Le prophète Amos, c'est 8 siècles. Là, c'est avant Jésus-Christ. Et le prophète Amos va dire ceci, mais je vais juste le citer. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Et puis, dans le livre de Job, par deux fois, on va trouver... référence à cela. Et peut-être je vous ai donné la référence, oui, Job, chapitre 38. Alors au début, c'est la première fois Job qui va faire référence à ces étoiles. Et puis là, c'est Dieu qui va poser la question à Job. Vous savez toutes les questions que Dieu a posées à Job. Et Job a dit, je me repens, j'ai parlé de choses que je ne comprends pas. Et Dieu va dire ceci, « Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» C'est Dieu lui-même qui va faire référence. Alors, bien sûr, là, ça a été traduit, la grande ours. Bon, je vous ai expliqué pourquoi. Tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Alors, je voudrais terminer avec le signe du taureau. En vérité, c'est un ouroc. En hébreu, celui qui vient régner. La racine du mot, celui qui vient et qui domine. L'étoile la plus brillante que l'on connaisse dans le ciel, la 13e, qui a la magnitude la plus élevée, Aldébaran, signifie chef. Gouverner. Le centre, ça c'est situé dans les Pléiades, qui tourne autour, c'est le nom de plusieurs étoiles, hein, le centre qui tourne autour, donc qui tourne autour du centre. Et dans le premier des camps, on trouve la constellation d'Orion, et on va l'afficher. Orion, dans cette langue ancienne, est constitué de trois je ne sais pas si je ne vais pas m'exprimer correctement, sûrement, mais de trois syllabes. Ce n'est pas des syllabes, je ne sais pas comment il faut dire. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi là-dedans. Ce n'est pas grave. Et en fait, ça veut dire celui-ci est chef et triomphe. Voilà la signification. Et dans la mythologie grecque, alors je fais une parenthèse, hein, ne dites pas qu'on a parlé et qu'on a fait de l'astrologie. Hein. Dans la mythologie grecque, mais vous savez, on retrouve ce que je vais dire, on le trouve sur la planisphère, hein, parce que des dessins, ils y sont. Hein. Orion est capable de marcher sur les eaux. Il a été blessé au talon par un scorpion. C'est quand même extraordinaire. Je pense que ça ne vient pas de nulle part. L'étoile la plus brillante de cette constellation d'Orion, donc, dont Dieu parle lui-même, elle est d'un rouge orangé, intense. Elle est appelée la venue du germe et elle est 7 milliards de fois la Terre. 7 milliards de fois la Terre. Orion. Jésus-Christ est au centre. Il est au-dessus de tout. L'étoile Bellatrix, dans cette constellation, signifie qui écrase promptement. Saïf, c'est le meurtri. Le message de cette constellation, Orion est un héros rapide qui a vaincu, bien que lui-même ait été blessé et meurtri. Et les étoiles du troisième décan nous rappellent le sacrifice. Tout est écrit dans le ciel. Tout est écrit. Et dans nos cœurs, ce matin, le Seigneur veut nous donner sa grâce et sa paix. Il est au-dessus de tous nos problèmes. Le Dieu qui a donné leur nom aux étoiles nous connaît personnellement par notre nom. Alors je termine en disant ceci. Combien est grande notre responsabilité de porter et de vivre le message de vie dans un monde dont l'avenir est tellement sombre. Tellement sombre. Et nous connaissons le Dieu des étoiles. Je suis sûr, enfin je pense, que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, quand vous regarderez le ciel, vous le regarderez d'une autre manière. Que Dieu est grand. On peut terminer par ce verset. Est-ce que j'ai donné Philippiens ? Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous. Merci Seigneur. Merci ô Dieu pour ta grandeur. Nous nous sentons tellement petits devant toi, mais aussi par ta grâce. Nous savons tellement aimer. Tu connais tout de nous, tout de nos vies. Notre destinée est dans tes mains, Seigneur. Et rien ne pourra nous séparer de ton amour. Rien. Alors ce matin, nous faisons monter vers toi notre louange et notre adoration. Que ton nom soit béni, ô Dieu Tout-Puissant. Amen.